sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, la radio locale et associative qui fait entendre ce qu'il se passe dans le sud de la Lozère et un peu d'autres choses aussi, que vous nous écoutiez de près sur le 107 de la bande FM ou de loin sur radiobarthas.net, soyez les bienvenus. Nous sommes le 19 mars et nous célébrons, comme parfois dans cette émission, un anniversaire, celui de la mort, le 19 mars 1822 de Valentin Ahuy. Valentin Ahuy, son nom ne vous dit peut-être rien, il n'était pas lozérien, mais il a quand même fait des choses bien, très bien même. C'était un pédagogue français et un des premiers à s'intéresser à la situation sociale et culturelle des aveugles en France. À cette époque, les aveugles et malvoyants étaient globalement considérés comme des gens misérables, méprisés et culpabilisés car incapables de travailler. Alors des organisations charitables pouvaient les aider à survivre, mais pas vraiment à s'insérer socialement. Alors comment Valentin Ahuy, qui n'était pas du tout malvoyant lui-même, ni ne comptait parmi ses proches de personnes concernées, comment s'est-il intéressé à leur devenir? Eh bien, on raconte qu'en 1771, il était en train d'assister à un concert-spectacle sur une place à Paris, où des aveugles étaient l'objet de violentes moqueries de la part du public. Scandalisé par ce manque de considération pour leur humanité, Valentin Ahuy aurait décidé d'agir pour améliorer leur sort. Alors, il a fondé en 1786 à Paris, la première école pour aveugles, et c'est la première fois que la cause de l'éducation des aveugles était prise en charge par une autorité publique. Et surtout, il a mis au point un système d'écriture avec des caractères en relief, et il arrive à apprendre à un jeune aveugle, François Le Sueur, à lire, à faire des opérations de mathématiques, et aussi à lire de la musique. Après la Révolution, l'école pour aveugles deviendra l'Institut National des Jeunes Aveugles, l'INJA, et cette école existe encore aujourd'hui. Il y a d'ailleurs chaque jeudi des concerts de musique offerts par des musiciens malvoyants dans un auditorium magnifique. C'est gratuit et ouvert à tous. Si vous passez à Paris, allez-y y faire un tour. C'est un endroit assez incroyable.
Midi et des poussières.
Direction le Texas maintenant, où les liens entre la malvoyance et la musique ont été plus que féconds grâce à un immense musicien, j'ai nommé Blind Willie Johnson. Blind Willie Johnson est né dans une petite ville près de Waco en 1897 et il est considéré comme l'un des maîtres du blues, dans le style blues gospel d'inspiration religieuse des spirituals, les Negro spirituals. Autodidacte, il aurait appris à jouer de la guitare à l'âge de 5 ans sur une guitare que lui a donnée son père confectionnée avec une boîte à cigares. Alors il n'est pas né aveugle, la légende raconte que c'est sa belle-mère lors d'une dispute avec son père qui se serait vengée sur le petit Willy en lui jetant au visage une solution toxique type vitriol, ce qui l'a aveuglé pour la vie. Voilà, sa musique elle a été enregistrée notamment entre 1927 et 1930 par l'ethnomusicologue Alan Lomax et je vous propose d'écouter le morceau Dark Was the Night, Cold Was the Ground. La chanson est principalement instrumentale et on entend bien ce style de jeu de slide guitare où le guitariste fait glisser ce qu'on appelle un bottleneck, littéralement un goulot de bouteille sur les cordes. Blind Willie Johnson, lui, y remplace ça par un canif et il accompagne son jeu d'un chant grave, une mélopée d'une infinie mélancolie. Le titre lui-même d'ailleurs n'est pas bien joyeux. Sombre était la nuit, froid était le sol. Ça fait référence à un chant religieux qui évoque la solitude et le désespoir humain comme celui qui accompagne la crucifixion du Christ à sa descente de la croix, son corps nu posé à terre. Thank you. C'était Dark Was the Night, Cold Was the Ground de Blind Willie Johnson sur Radio Bartas. Et je voulais ajouter que cette chanson fait partie des échantillons de musique du monde entier qui ont été gravés sur le Voyageur Golden Record. Vous vous souvenez, ce fameux disque fixé sur les sondes Voyageur et lancé dans l'espace en 1977 pour donner un aperçu de la vie sur Terre à destination de potentiels extraterrestres et dont je vous avais déjà parlé dans un Midi et des Poussières le 16 décembre dernier.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Et pour continuer notre exploration radiophonique de la malvoyance aujourd'hui, après Paris au XVIIIe siècle et le Texas au début du XXe, revenons pas très loin de la Lozère en Auvergne en 2026 et faisons la connaissance de Liliane Magloire. Elle est la secrétaire générale de l'association Chiens Guides d'Aveugles Centre-Ouest, une association qui depuis 1976 offre des chiens guides aux personnes déficientes visuelles. Et Liliane Magloire, elle est aussi et avant tout famille d'accueil de chiens guides. J'ai échangé avec elle en visio hier, elle était à distance mais en face de moi et Liliane n'est pas du tout malvoyante elle-même, alors j'ai commencé par lui demander quel était son lien avec la malvoyance.
Ben, disons que j'avais, il y a de nombreuses années, il y a au moins 20 ans, j'avais entendu, il faisait un appel, il recherchait des familles d'accueil. Et du coup, moi, comme j'adore les animaux, donc ça m'avait intéressé, je les avais appelés et à l'époque, ils ne prenaient pas de personnes qui travaillent, donc il fallait être à la retraite. Et j'avais toujours gardé ça dans un coin de ma tête en me disant que ben voilà, dès que je serai à la retraite, ben je savais ce que je ferais dans mes voilà comme aide. Mais mon intérêt principal au départ, c'était c'est bête de dire ça, mais c'était pas la malvoyance, c'était le monde de le chien quoi en particulier. Dès que j'ai été à la retraite, ben je me suis arrêtée le vendredi, le lundi je les ai contactés pour qu'ils viennent. Voilà, pour pouvoir être famille d'accueil.
Donc, c'est votre amour pour les animaux qui vous a amené à ça. Vous avez donc découvert l'univers.
Je connaissais rien du tout au monde de la malvoyance, en fait. Hein. Je ne connaissais même pas l'univers du chien, en fait. J'avais fait ça parce que c'était tout. Pour moi, c'est, étant donné que je suis hypersensible avec les animaux, donc c'était une façon de toujours avoir un chien en bonne santé, en fait. On le garde 2 ans et après il s'en va. Bon, ben voilà, mais c'était le fait de toujours avoir un chien en bonne santé et puis voilà quoi.
Et alors, est-ce que vous avez été formée pour. Parce que quel est votre rôle en tant que famille d'accueil? Qu'est-ce que vous devez faire avec ce chien? Vous êtes un peu responsable du dressage ou de quelque chose?
Alors, on récupère le chien à ses 2 mois. De 2 mois jusqu'à 5 mois, il va être entièrement à la maison, c'est-à-dire que ça va être à nous à lui apprendre la propreté, à le sociabiliser, à s'asseoir, le coucher, le assis, debout, enfin tous les gestes basiques, ça va être à nous de le faire. Et jusqu'à ces 5 mois, sachant que pendant cette période, il va aller pour faciliter la sociabilisation. Il va aller à l'école une après-midi par semaine de 2h à 4h. Et là, on va avoir ce qu'on appelle des séances d'obéissance, c'est-à-dire qu'on va travailler avec l'éducateur qui va nous montrer les gestes à avoir, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour que le chien arrive à travailler comme il faut, quoi.
Et donc cet éducateur, lui, il est un peu spécialisé dans l'accompagnement des personnes malvoyantes ?
Oui, tout à fait, oui. Oui. C'est eux qui montent les dossiers, c'est eux qui voient si le déficient visuel peut bénéficier d'un chien ou pas. Et ce qu'il y a du coup après, le chien de 5 mois jusqu'à 1 an, il va aller une semaine par mois à l'école. C'est-à-dire qu'on va le déposer le lundi matin et on reviendra le chercher le vendredi après-midi.
Ah, donc il n'est pas avec vous pendant…
Il ne sera pas avec nous. Il va passer une semaine complète à l'école. Ils ont des box attitrés. Ils sont super bien. Et ils sont super contents d'y aller parce que ils se retrouvent avec les copains. L'éducateur, c'est une deuxième maison pour eux.
Donc, ça ne les perturbe de vous quitter ?
Non. Et après, à partir de 1 an, jusqu'à sa remise, vers ses 2 ans, là, on ne l'aura plus que le week-end. C'est-à-dire qu'il va partir tous les lundis, il va revenir tous les vendredis, et on n'aura plus que les week-ends. Et ce qui permet, c'est pas plus mal, parce que en fait, ça nous permet, nous, de commencer à nous en séparer progressivement. La rupture est moins brutale que si on nous l'enlevait du jour au lendemain, quoi.
Et il fait quoi, alors, pendant cette année-là, où vous ne l'avez plus que les week-ends ? Il est toujours à l'école avec...
Il est toujours à l'école et c'est là qu'il va travailler avec le harnais, qu'il va apprendre son travail de chien guide en fait, avec son éducateur.
Et après, quand vous les laissez partir, c'est quand même un peu d'émotion.
Ah ben tout à fait, oui. Le plus dur pour nous, ça a été la première. J'en suis au quatrième là, éduqué. Et c'est vrai que la première, ça a été hyper dur, quoi, parce que quand on vous apprend ça un mois avant à peu près, donc pendant un mois, vous dites ça approche, et puis le jour J, on pleure.
Et est-ce que vous échangez aussi avec la personne déficiente visuelle qui récupère le chien pour un peu donner des informations sur le caractère du chien ou des choses comme ça ?
Ah oui.
Et comment c'était alors pour vous la première fois quand vous avez fait cette rencontre pour
C'était émouvant en fait. C'était très très émouvant parce qu'on voyait que comme la personne nous avait dit, elle était malvoyante à partir de ses 40 ans, donc ça faisait qu'une dizaine d'années. Et du coup, elle en était arrivée, elle ne sortait plus de chez elle. Il fallait tout lui faire. Du jour où elle a su qu'elle allait avoir un chien, où elle a eu un chien, elle a recommencé à vivre une vie normale.
Donc vous avez aussi.
Et il faut savoir qu'on peut revoir le chien, mais on a une période de minimum 6 mois où on ne peut pas le revoir le temps qu'il s'habitue à son nouvel environnement, du coup.
Et alors aujourd'hui, plusieurs années après, donc cette première chienne, comment elle s'appelait, la toute première que vous avez eue ?
Noisette. En plus, Noisette, elle est juste à côté de chez nous. Elle est à quoi, 3 kilomètres à peu près. Donc, c'est vrai qu'on se voit souvent. Et elle nous fait la fête. Je vois de temps en temps, mon mari va la sortir, va lui faire faire de grandes balades. Dès qu'elle entend la voiture, elle est folle. Elle court partout. Enfin, elle va avec nous. Mais dès qu'on revient de balade, c'est pas qu'elle ne nous connaît plus, mais elle revient dans sa maison aussi vite qu'elle en est partie, quoi.
Et donc, ça veut dire que vous avez aussi un lien avec la maîtresse de Noisette.
Tout à fait.
Vous gardez un lien avec elle.
Et disons que c'est elle qui est la plus proche, mais sinon les autres, ils sont assez éloignés de chez nous. Ils sont plus, ils sont à Bourges et puis Issoudun, donc c'est un peu plus loin. On se voit moins souvent, mais c'est vrai qu'on s'appelle régulièrement, on s'envoie des photos, enfin voilà.
Moi, j'avais entendu dire que les chiens guides pour les personnes malvoyantes, ils travaillaient, on peut le dire comme ça, c'est vraiment un travail. Et que du coup, quand on est par exemple un passant dans la rue, qu'on passe à côté d'un de ces chiens, il faut faire attention à ne pas forcément le caresser parce que le chien, il est au travail.
Tout à fait.
Et donc, comment ça se passe concrètement, par exemple, quand vous les retrouvez, C'est pas perturbant pour le chien de...
Non, parce que nous, on le retrouve dans un contexte de détente. On se retrouve chez le déficient ou le déficient vient à la maison. Donc, c'est dans un contexte de détente. Mais c'est vrai que quand les chiens sont au travail, du coup, on repère quand ils sont au travail parce qu'ils ont le harnais. Et là, c'est vrai que quelqu'un qui va s'approcher pour essayer de le caresser, ça va le perturber. Et du coup, il risque, la personne risque d'avoir un accident ou voilà, il est moins attentif et puis il risque d'y avoir des soucis avec le déficient visuel.
Donc, si on peut donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, c'est que voilà, quand vous croisez un chien guide au travail avec le harnais, donc aux mains de la personne malvoyante, il faut le laisser tranquille, il ne faut pas essayer de le caresser.
Voilà, c'est ça. Ou alors demander l'autorisation, mais le mieux, c'est de le laisser tranquille, quoi.
En ce moment, vous avez chez vous Azur.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous
il a commencé l'éducation intensive, là, du coup, parce que je pense qu'ils veulent le remettre avant la fin d'année. Donc voilà, on ne l'aura même pas gardé 2 ans, celui-là.
Et comment il est? Est-ce que c'est toujours c'est des Golden Retrievers systématiquement, les chiens guides?
Non. Tous les 3 qu'on avait eus, c'était des Labradors, c'était 3 femelles Labrador noires. Et celui-là, j'ai dit à l'éducatrice, j'ai dit, écoute, si tu me trouvais un chien sable, un mâle, ça m'ira très bien. Et du coup, là, c'est un croisé Golden Labrador, c'est un mâle, et puis qui est sable.
Et donc, d'après les témoignages, les rencontres que vous avez faites de personnes malvoyantes, c'est vraiment quelque chose en plus de pouvoir bénéficier d'un chien guide comme
ça ? Oui, tout à fait. Et il y a certaines personnes, justement, comme la première qu'on avait eue, la première personne déficiente visuelle à qui on a remis Noisette, étant donné qu'elle ne pouvait plus se diriger en ville, enfin qu'elle ne sortait plus, il a fallu tout réapprendre. Donc, il y a des psychologues, il y a un dossier assez sévère, assez sérieux à monter. Et du coup, il faut rencontrer un psychologue, un psychomotricien. Et avant de pouvoir avoir le chien, il y a toute une démarche à faire. Apprendre à savoir se guider en ville, au niveau des ronds-points, les passages piétons, enfin les rues. Enfin, parce que c'est pas un GPS, le chien. Et puis, il faut quand même arriver à le guider soi-même, quoi.
Oui, il faut réussir à créer un lien aussi avec le chien et avoir une sensibilité aussi comme
oui,
vous.
Oui.
Et est-ce que ça a changé un peu votre regard, votre perception sur ce handicap, sur la malvoyance?
Tout à fait, oui. Oui. Disons qu'avant, je ne faisais pas forcément attention. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on est entouré de déficients visuels. Et c'est vrai que ça change ce qu'on peut voir.
Ça ouvre aussi un monde
différent, oui, tout à fait. Oui,
où les perceptions et la manière d'être au monde est complètement différente.
Tout à fait, oui. Oui, parce que je vois même la personne, qui, des fois quand elle sort sans son chien, même des fois quand elle sort avec le chien que j'essaie de la guider, c'est même, même pour moi, c'est tout un travail pour arriver à la guider quand elle n'a pas son chien, quoi. C'est compliqué quand même pour lui faire éviter les trottoirs, il faut prendre la place du chien quand c'est comme ça, donc s'arrêter au bord du trottoir, il y a plein de choses à faire qu'on ne pense pas forcément quand on ne les côtoie pas, ces personnes.
Et je me demandais, donc ce sont des chiens qui travaillent, on l'a dit, et donc il y a un moment, arrive aussi pour eux l'âge de la retraite.
Tout à fait.
Alors ça se passe comment ?
Ils sont à la retraite, disons qu'ils ont... les éducateurs commencent à les surveiller au niveau santé plus sérieusement à partir de 9 ans, 9-10 ans. Bon, il y en a qui vont travailler, qui vont s'arrêter à 10 ans, il y en a d'autres qui vont travailler à 13 ans, tout dépend de ce qu'ils ont fait dans leur vie, si la personne était active ou pas. Et du coup, à la mise en retraite, donc, il y a plusieurs solutions. Donc, soit la personne déficiente visuelle veut garder son chien, a la possibilité de le garder à un espace assez grand et en prend un autre, donc voilà. Soit après, c'est la famille d'accueil qui est contactée pour voir si on veut reprendre le chien. Ou alors, ils sont mis à l'adoption dans des familles qui recherchent. On a des listes d'attente assez importantes de personnes qui veulent récupérer des chiens soit retraités, soit qui ont été réformés. Et du coup, voilà.
Et alors, vous, est-ce que vous allez récupérer Noisette quand elle sera à la retraite?
Je ne sais pas, on verra. On ne sait pas parce que moi, je voudrais encore continuer quelques années à les éduquer et puis on verra.
Et j'aurais bien aimé dire bonjour à Azur, mais là, il est à l'école, non?
Il est à l'école, ouais.
Dommage. Eh ben merci beaucoup Liliane Magloire pour cette immersion donc dans la vie d'une personne accueil de chien guide. C'était très intéressant.
Voilà, ben merci à vous.
Merci. Et voilà, si le témoignage de Liliane vous a touché, vous a donné envie, si vous souhaitez vous renseigner sur la possibilité d'être famille d'accueil pour chien guide, vous pouvez contacter l'association Chien guide d'aveugles Centre-Ouest. La Lozère est un des départements du champ d'action de cette association. Donc le site, c'est chienguide-limoges.fr. Je mettrai le lien sur la page de Midi et des Poussières sur le site de Radio Bartas. Et si vous êtes malvoyant, déficient visuel ou aidant de malvoyant et que cette solution vous intéresse, eh bien sachez que les chiens guides sont remis gratuitement et c'est aussi accompagné d'une indemnité de 50 euros par mois pour le bien-être, la santé et l'alimentation du chien.
Midi et des Poussières.
Midi et des Poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et oui, il est toujours Midi et des Poussières sur Radio Bartas et je vous propose maintenant un format un peu spécial, mais bon, on reste dans le thème, vous allez voir. C'est un truc que j'ai fabriqué pendant le confinement au printemps 2020. Avec des amis, on a fait de la radio pendant cette période avec notre web radio associative qui s'appelle Monobloc. On était à Paris à l'époque ou en banlieue parisienne, chacun chez soi, et comme on n'avait pas le droit de sortir, on s'est imaginé des nouveaux voisins. On a chacun choisi un musicien ou une musicienne célèbre dont on aurait aimé être le voisin, qu'on aurait pu observer comme ça par la fenêtre, écouter chanter à travers les murs. On a décidé d'en faire leur portrait radiophonique et on a appelé cette série « Fenêtre sur cour ». Un copain a choisi Booba, un autre Nino Ferrer, un autre encore Nina Simone, et moi j'ai choisi Moondog. Et donc si je vous le fais écouter aujourd'hui, si je vous en parle, eh bien c'est parce que Moondog était aveugle, lui aussi, voilà. Donc j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir.
Cent, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Fenêtres. 112 fenêtres. En tout. Mais j'ai peut-être pas bien compté.
M'ennuie.
Comme dirait Adrien, vous n'allez pas me croire, non, vous ne me croirez sans doute jamais, mais j'ai découvert que j'avais un voisin célèbre.
No matter where I came from, I say, no matter where I go, to me what matters is where I am on this day.
Je ne l'avais jamais croisé avant, je ne savais pas qu'il habitait dans cet immeuble, ni même dans ce quartier. On disait qu'il vivait à New York, sur la 6e avenue. On disait aussi qu'il était mort, il y a bien longtemps déjà, à la toute fin du 20e siècle, quelque part en Allemagne. Et pourtant, un matin, je l'ai aperçu. J'ai d'abord vu deux cornes qui dépassaient à peine de la fenêtre en face de chez moi, de l'autre côté de la cour. L'homme a dû se redresser sur sa chaise, car les cornes sont montées de quelques centimètres, dévoilant la base d'un casque, un casque de viking sur lequel elles étaient accrochées. L'homme se redresse un peu plus. Je distinguais maintenant pleinement son visage, très doux, orné d'une longue moustache qui allait se noyer dans une très longue barbe blanche. Puis l'homme s'est levé. Il était vêtu d'un amoncellement de capes et de larges pans de tissu qui lui tombaient jusqu'aux pieds. Dans sa main droite, une lance à la pointe de fer forgé et aux manches de bois. Cornes et lance dressées vers le ciel, les yeux clos magistral, Louis Thomas Harding, plus connu sous le nom de Moondog, chantait.
No, I'm wondering myself. Have you ever heard of Moondog? I've heard the expression. I don't know what it relates to. Does it relate to him?
He's a musician.
Is he really? What does he play?
This is a real old tune. The guy's got it off of a beautiful kid who writes poetry and is blind and looks like a Viking. A guy named Moondog.
I suppose you would call him the ultimate counterculture figure, a work of living art in New York City. The most famous and probably most photographed street person of his time.
Né en New York. Les rues sont noires de monde, les voitures un flot incessant. Moondog est là, chez lui. Il est le viking de la 6ème avenue. Il récite ses poèmes qu'il vend pour gagner sa vie. Et les passants se bousculent, de plus en plus nombreux, autour de ce clochard céleste, de cette présence magnétique, comme une promesse, une échappée. Il joue de la musique sur des instruments étranges que personne n'avait encore jamais entendus, car c'est lui qui les a inventés. Il y a la trimba, petite percussion doublement triangulaire, le ho-ho, sorte de petite harpe triangulaire aussi à 25 cordes, le ho-ho-yatsu, le hus ou encore l'utsu, un petit clavier pentatonique qu'on entend ici. Ce morceau est extrait de l'album On the Streets of New York, enregistré en 1953 par Tony Schwartz, adepte du field recording qui réalisera un des premiers enregistrements de la musique de Moondog. Et le disque a été enregistré en grande partie sur la 6ème avenue. On entend les sons du trafic qui s'immiscent dans la musique. Ce rythme profond, cette pulsation primaire qui résonne dans presque toutes ses compositions, Moondog les a entendues la première fois quand il était enfant, au début des années 20. Un jour où son père, prêtre qui travaillait dans les réserves indiennes, l'emmena chez la tribu Arapaho. Au cours de cette visite, Yellow Calf, le chef de la tribu, invite l'enfant à s'asseoir sur ses genoux afin de battre le rythme de la danse du soleil sur un énorme tambour en peau de buffle. Cette danse est l'un des rites les plus importants, les plus spectaculaires et les plus sacrés pratiqués par les Indiens des plaines. Le chant s'élève vers le ciel alors que le tambour est destiné à la terre. Parfois, mais c'est extrêmement rare, les deux éléments s'accordent et ne font plus qu'un. Ils sont alors au plus proche du divin. Dieu pourtant, Moondog cesse vite d'y croire. Il a 16 ans, nous sommes le lundi 4 juillet 1932, quand, alors qu'il longe une ligne de chemin de fer à Hurley, dans le Missouri, il aperçoit un drôle d'objet briller. Il le ramasse et ça lui explose au visage, un puissant flash blanc. Ce bâton de dynamite oublié sur la voie par des ouvriers le rendra définitivement aveugle. Bien des années plus tard, il racontera « J'ai pensé que si le Dieu auquel mon père adressait ses prières était bon, il n'aurait pas laissé une telle chose m'arriver. Et que s'il était tout puissant mais qu'il avait par mégarde regardé ailleurs à l'époque, il m'aurait alors redonné la vue. Mais il n'en a pas été ainsi et j'ai perdu la foi. » Dans les écoles, il apprend le braille, le violon, le piano, l'orgue, l'harmonie, le chant. Mais il apprend surtout tout seul, éduquant son oreille à reproduire les sons qu'il entend à la radio, pour parvenir, dira-t-il, à retranscrire les musiques qui jouent dans sa tête. C'est à ce moment-là qu'il se laisse pousser les cheveux et sa barbe qu'il ne rasera plus. Il confectionne ses propres vêtements et passe des heures à marcher, seul. Il se sent à l'étroit dans les plaines du Midwest. Louis Thomas Sardine décide de partir pour New York et de devenir Moondog, un nom qui rend hommage à un chien qui hurlait à la lune plus qu'aucun autre chien qu'il ait connu. Il a $60 dans sa poche, on est en 1947, 10 ans avant la publication de Sur la route de Jack Kerouac, Moondog est à l'avant-garde. Et pourtant, là-bas aussi, il détonne. Aux répétitions de l'orchestre philharmonique, on lui refuse l'entrée car son style vestimentaire ne convient pas. Mais Moondog ne cède pas, il cesse simplement d'assister aux répétitions et retourne arborer fièrement son casque cornu sur la 6ème avenue.
Do your thing. Be fancy free to call up June, you say.
années plus tard, lors de l'inauguration d'une exposition d'objets de vikings anciens au musée d'histoire de Stockholm, Moondog découvrira finalement que les vikings n'ont jamais porté de casque à cornes. Il se fait des amis. Les chefs d'orchestre classiques, Leonard Bernstein et Arturo Toscanini, les plus grands jazzmen, Benny Goodman et Charlie Parker, en hommage duquel il composera un de ses morceaux les plus connus, Bird's Lament. Il se lie aussi avec la jeune génération, Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley. Moondog devient un grand reconnu par les plus grands. Il expérimente, dirige, joue, chante, donne des concerts partout dans le monde et enregistre de nombreux albums, parfois accompagnés par de grands orchestres. Et toujours, les rythmes ancestraux se mêlent aux contrepoints, les canons aux saxophones, le jazz est indien, le baroque est urbain. Dans les morceaux de Moondog, tout s'harmonise. Est-ce pour cela que sa musique transporte hors du temps et semble avoir le pouvoir d'effacer tout ce qui existe autour, comme pour recréer un nouveau monde, fait de sons et de pensées, sans but ni raison, juste parce qu'ils peuvent être, juste parce que c'est beau? Sur la pochette de l'album The Story of Moondog, paru en 1957, Andy Warhol écrit « Ça peut être le grondement de la rue, ça peut être le murmure dans une pièce, mais surtout, c'est cette musique secrète qui s'infiltre dans l'imagination et dans la mémoire. Ces expérimentations forment le scénario d'une tragicomédie unique, l'histoire de la vie de tout un chacun. Dresser l'oreille serait si facile, et pourtant, nous le faisons rarement. Mais quand Moondog nous y invite, nous sommes envoûtés et amenés dans de nouveaux mondes de compréhension. » Toute sa vie, il poursuivra son rêve de devenir le meilleur compositeur et il laissera une œuvre immense. 81 symphonies, des œuvres pour orchestre, pour ensemble de chambre, de cuivre, des œuvres pour piano et pour orgue, plus de 300 chansons et même une pièce pour 9 saxophones. Et encore, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg Moondog. Nombre de ses œuvres n'ont jamais été jouées, encore moins enregistrées. Est-ce que c'est parce que la musique, il l'écrivait en braille et qu'il était difficile de la déchiffrer? Ou est-ce parce que ce sont des pièces d'une ambition folle, potentiellement irréalisable pour un humain au sens basique du terme? Car il a quand même composé une pièce pour 13 célestas, une autre pour 76 trombones, Three Tones nécessitant 8 chefs d'orchestre, ou encore Cosmos, un canon pour 1000 voix qui dure pas moins de 9 heures. Des passionnés s'attellent pourtant à déchiffrer ces pièces inédites. C'est ce que fait par exemple Amaury Cornu, un jeune français fanatique de Moondog et qui porte bien son nom. Il a formé l'ensemble instrumental Minissime, avec lequel il continue de faire vivre sa musique. Et c'est peut-être grâce à ça que, malgré les rumeurs, voire malgré les faits, Moondog n'est pas tout à fait parti et se trouve là, dans l'appartement en face du mien, juste de l'autre côté de la cour. Hier, je crois qu'il a reçu la visite de sa fille, June. J'ai failli appeler la police, ça se fait beaucoup dans mon quartier, mais je me suis rappelé que la maire du 20e arrondissement nous a demandé de cesser les messages de délation, car ils encombrent le 17, numéro soi-disant réservé aux appels d'urgence. Alors je me suis abstenue. Et puis Moondog s'est mise à jouer, sa fille s'est mise à chanter, et c'était si beau que je me suis dit que je pouvais juste laisser la fenêtre ouverte et les écouter.
Thank you.
C'était Moondog et sa fille June sur ce morceau Voices of Spring, voix du printemps. Printemps qui est presque là. Après-demain sera la date officielle de son avènement. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous mardi à midi et des poussières pour un prochain épisode. Salut!
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi
et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.